Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Les mains ont la parole sur Aligre FM. Ébéniste, plumassier, luthier, vitrailliste, les artisans et l'artisanat sont à l'honneur du 13 au 19 novembre sur Aligre FM. Combien sont-ils? Comment travaillent-ils? Comment transmettent-ils leur savoir-faire? Quelle place occupe leur production dans l'économie? Située au cœur d'un quartier historique de l'artisanat, la radio pousse les portes des ateliers, vous invite à redécouvrir des lieux emblématiques comme la Cité de l'Industrie et des métiers connus ou méconnus qui associent maîtrise de gestes ancestraux et démarches d'innovation. Les mains ont la parole sur Aligre FM du 13 au 19 novembre 2023. Soyez au rendez-vous.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato, ma no, no, e va bene, lo so. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle sei di mattina.
Ma tu non piangere.
Aligre FM presenta Cappuccino. Il presentatore del 9.30 è Michele Gotti con i suoi invitati.
Michelino,
ciao,
come va?
Ciao Renatino,
ti
com'è?
Vedo con, ti vedo con delle persone qui che hanno fatto un bel pezzo di regione parigina.
Sì.
Ed è con grande piacere che li sentiremo dopo, perché proprio quando ci siamo conosciuti, all'epoca della missione italiana, erano tutti qua o quasi che venivano a parlare dei loro lavori, di quello che facevano, di quello che avevano realizzato, ed è con grande piacere che tu le intervisterai e ti diranno tutto ciò che hanno fatto.
Sì, Francesco Pompili, il nostro invité, donc on vous en parlera dans quelques minutes, donc qui est dans le cadre justement de cette semaine sur les mains d'or d'Aligre FM, qui propose donc de rencontrer des artisans depuis une semaine. On va clôturer justement cette semaine avec les maçons italiens qui sont emblématiques de la migration italienne, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, on vous souhaite un bon réveil, plein de bonnes choses. J'espère que tout va bien. Alors prenez un crayon et un papier parce que on a pas mal de petites informations, hein, comme d'habitude, culturelles. Donc là, on commence par l'association France Frioul, qui va fêter ses 40 ans d'existence, hein, donc l'association depuis des années maintenant organise des centaines d'événements, et là elle propose deux rencontres, une exposition en 15 panneaux qui raconte qui étaient les vrais personnages de Roméo et Juliette, les lieux où s'est déroulée la naissance de cette histoire et dans quel contexte. Pour fêter ces 4 décennies de France Frioul, ces deux événements se dérouleront à la Maison d'Italie le dimanche 26 novembre, donc c'est dimanche prochain à 15h, avec le vernissage de l'exposition qui sera suivi des chansons proposées par la chorale Sono Solo Canzonette et dirigée par Paola Nici. Et le samedi 2 décembre à 15h se déroulera le colloque avec Ugo Falcone, président du comité international Roméo et Juliette du Frioul. L'exposition qui se trouve à la Maison d'Italie sera ouverte au public du 27 novembre, début décembre, de 14h à 17h et de 20h à 22h. On rappelle que la Maison d'Italie se trouve au 7 boulevard de Jourdan dans le 14e. Et merci à Patricia Bisson qui est la présidente du Frioul et qui sera notre invitée la semaine prochaine justement pour fêter les 40 ans, et on parlera du Frioul et de la langue frioulane et voilà, et sûrement Renato peut-être viendra nous faire un petit coucou aussi, pourquoi pas.
Oui, avec voilà. Plaisir, oui.
Alors, on rappelle aussi également que l'association Les Ritaliens de Livry-Gargan organise un spectacle aujourd'hui à 15h à la salle Jules Verne, la musique notre patrie, retraçant l'émigration italienne au XXe siècle. Donc c'est sur réservation au 06 36 50 20 54. Et puis également la CLI, ben c'est nous la CLI Capucine organise le 20 novembre, c'est demain, la retransmission Ukraine-Italie à 20h45. C'est gratuit, hein. Donc on rappelle que l'Italie donc a gagné 5-2 contre la Macédoine et là ils doivent absolument ou gagner ou faire match nul, mais faut pas perdre, hein, contre l'Ukraine. Donc c'est un match couperet à voir donc ensemble, tous ensemble à 20h45. Et puis également le vendredi 24 novembre, donc c'est aussi dans la semaine, à 20h, il y aura le Ciné-Club avec la projection du film Il Merlo Maschio. Là aussi, hein, c'est gratuit, donc venez nombreux, on va s'amuser. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah, également l'association Italienne in Europe, hein, tu connais Renato, organise son déjeuner dansant le dimanche 3 décembre à partir de 12h. Le déjeuner sera animé par Emanuela Iannucelli. Attention, place limitée. Alors dépêchez-vous de téléphoner au 06 89 10 67 53 06 89 10 67 53. C'est Marie-Rose Pouchin avec sa belle voix qui vous parlera de cette belle initiative et c'est à Aubervilliers. N'hésitez pas aussi à appeler également donc au 01 40 24 29 29 si vous avez besoin d'informations sur toutes ces informations qu'on vous a données assez rapidement. Voilà, parce qu'on est toujours pressé par le temps. Et là, on va faire une pause musicale avec Laura Pausini et son nouveau CD, Il Primo Passo sulla Luna. Et on n'oublie pas qu'elle sera en concert à Bercy le 12 février.
Capita di rimanerci male per una discussione, di non avere sulle cose la stessa identica opinione. A volte non è facile capire chi ha torto e chi ha ragione. A volte bevi del veleno, a volte un'impressione costantemente da a chi non ti dimostra mai quanto ci tiene. Sull'amor proprio non c'è discussione, ma i fatti sono prove e non ci piove. Non posso fare sempre il primo passo e venirti ancora incontro, perché come avere sete con il mare dentro. Tu non mi concedi mai uno sconto, è più facile che un sasso, poi diventi piuma o fare il primo sulla luna. Fare il primo passo sulla luna è quasi un'equazione elementare, per quel che vale è una questione di principio e non un fatto personale. Ed è evidente non ne vuoi parlare, però davanti a un bivio sono sempre due le strade dove scegliere di andare. Costantemente dare a chi non ti dimostra mai quanto ci tiene. Non posso fare sempre il primo passo e venirti ancora incontro, perché come avere sete con il mare dentro. Tu non mi concedi mai uno sconto, è più facile che un sasso, poi diventi piuma o fare il primo passo sulla luna. Poi diventi piuma o fare il primo passo sulla luna.
Il primo passo sulla luna. Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que c'était, Fabrice Masséra?
Bonjour Michel.
Hein, t'étais
non, 69.
Ouais, juillet 69. Bravo, bravo, bravo. Voilà, bon réveil.
J'étais pas né, hein, j'étais pas né, je précise.
Plein de bonnes choses à tout le monde, aux auditeurs. On rappelle le téléphone 01 40 24 29 29. In italian, on pourrait le faire, tiens, avec Raffaellito.
01 40 24 29 29.
Voilà, on salue notre technicien Enrico Mastro Giovanni. Et donc, aujourd'hui, dans le cadre de la semaine, les mains ont la parole sur les ondes d'Aligre FM, nous recevons Francesco Pompili, entrepreneur de maçonnerie, professeur de patrimoine bâti au lycée de Montrouge, Jean Monnet. Francesco Pompili restaure le château de Coucy-Offric également, hein, du côté de Soissons. Il est le fils d'artisans maçons hein, de nos gens, originaires de Assise en Italie. Il a étudié au lycée Leonardo da Vinci et ses parents se sont connus à la mission catholique. Ça, c'est très sympa. On dit bonjour également donc à notre ami Fabrice Massera, qu'on a
ben
entendu
oui.
La belle voix. Comment est-ce?
Eh ben très bien, Michel, ça fait plaisir. C'est rare, c'est une fois par an là depuis deux ans qu'on se fait une émission ensemble. Hein. Souvent on se croise, mais
c'est vrai, c'est compliqué.
Là, l'année dernière c'était avec ma maman.
Avec ton travail aussi. Hein. Là on approche dans les fêtes de
ouais,
fin
les fêtes
d'année.
De fin d'année, il y a, y a là, beaucoup de travail. Ouais, dans les livres, il y a ouais. Beaucoup de livres qui sortent.
Ouais. Bonjour Francesco.
Buongiorno, un caro buongiorno a tutti italiani, un bonjour à tout le monde et à tous les Italiens.
Ah. Et en fait, c'est grâce à toi et Juliette que justement on a connu Francesco.
Oui, c'est grâce à Juliette Mauduit qui nous a mis en relation avec Francesco et puis ben voilà, on va pouvoir le connaître, savoir qu'est-ce qu'il fait, puis mettre un peu en avant les artisans, ben, c'est dans le cadre de la semaine des artisans et puis ben, aussi... Les travailleurs des mains et tout qui sont si importants en Italie et donc je trouve on ne parle pas assez.
C'est vrai et puis faut dire qu'en Italie et le métier de maçon est quelque chose qui est très important. Enfin pour tous les immigrés qui sont venus ici, on en reparlera tout ouais. À l'heure. C'est vrai quand on arrivait ici, ben, souvent voilà qu'est-ce que tu fais ? Ben, soit tu étais manœuvre hein, dans la maçonnerie, dans le bâtiment, ou alors après quand ça allait un petit peu mieux, ben, tout de suite tu étais maçon et puis après tu montais même ton entreprise hein, à nos gens. Enfin
ouais.
On en connaît plein d'exemples.
Ouais, on va en parler, mais
il va nous en parler, hein, Francesco.
Issu des entreprise neugentaise de maçonnerie. Ouais, mmh. Tout à fait.
On a réussi quand même à trouver deux chansons qui parlent de maçonnerie, c'était pas forcément évident. Une de Claude Nougaro, ouais. Chanson pour le maçon, hommage à Audiberti, hein, qui était un poète, à son père. Et puis on en aura une un peu plus tard avec Maurice Chevalier, la chanson pour le maçon. Donc ils sont pas en italien, mais bon, en italien on n'a pas trouvé. Sauf que toi t'as trouvé un extrait de film.
Un extrait d'Amercord de Federico Fellini, ouais, sur les maçons, ouais, l'écouter après, ouais, sur I mattoni di calzinazzi.
Alors, on écoute tout de suite cette chanson de Claude Nougaro, chanson pour le maçon, hommage à Audiberti.
Jacques Audiberti, dites-moi que faire. Pour que le maçon chante mes chansons. Eh bien mon petit, va-t'en chez mon père, il te le dira, il était maçon. Dans le vieil Antibes, derrière la mer, il a sa maison, rue du Saint-Esprit. Rue du Saint-Esprit, j'y suis allé hier, votre père est mort. Jacques Audiberti, bien sûr mon petit, mais je voulais dire, chante tes chansons devant sa maison. La pierre a du cœur puisqu'elle fait des murs, ils ont des oreilles, rue du Saint-Esprit. Jacques Audiberti, je suis enroué d'avoir trop chanté. Rue du Saint-Esprit. Alors mon petit, que s'est-il passé? Est-ce que ta salade plaît à la façade? Que t'on dit les marches quand tu chantes l'air? Et les volets verts se sont-ils ouverts? Le vert des volets devint-il du vert quand tu as chanté rue du Saint-Esprit? Jacques Audiberti, le verre des volets est resté de bois rien ne s'est passé. Mais je reviendrai dans le vieil Antibes. Oui, je reviendrai devant la maison, chanter pour les marches, chanter pour les murs, pour le cœur des pierres et pour le maçon. Oui, je chanterai rue du Saint-Esprit, où vous êtes né, Jacques Audiberti.
Les mains ont la parole sur Aligre FM.
Bon, et bien, à tous, vous êtes à l'écoute de Cappuccino sur le 93.1. Et donc, nous sommes avec Francesco Pompili. Buongiorno.
Ça va? Buongiorno.
Ça va? Ça se passe bien?
Si, va bene.
Alors,
si sta bene.
On voit déjà la personne qui est très sérieuse
très
dans son travail. Oui, parce qu'il est venu à 8 heures. Donc, ça, disons, c'est de bonne heure. Mais oui, mais voilà, mais non. Voilà, d'abord, il se lève très tôt. Et puis, c'est comme ça, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Hein, c'est ça?
C'est ce qu'on se dit.
Voilà. Alors, c'est très sympa de répondre à quelques questions sur ton métier. Parce que, en plus, toi, tu as un parcours qui est vraiment total. Puisque tu as commencé avec un père qui était maçon, entrepreneur. Donc, tu as travaillé dans son entreprise. Et puis après, tu es devenu maçon. Et puis après, tu as changé de branche. Tu es du professeur en maçonnerie. Puis après, tu restaures aussi les châteaux à Soissons. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc, en fait, c'est vraiment complet. C'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir aujourd'hui. Et raconte-nous un peu ton parcours déjà pour commencer. Parce que les gens aiment bien savoir, donc tu es d'Assise ?
Je suis originaire d'Assise, mes parents. Je suis né à Paris, j'ai été à l'école française, je suis reparti en Italie, étudier prima media, seconda media. Je suis ensuite revenu en France, à l'école, au lycée italien à Paris. Ensuite, j'ai repris un cursus scolaire français. J'ai eu un bac en construction mécanique qui n'a rien à voir avec la maçonnerie. Mais après, les aléas de la vie font que je me suis lancé dans le bâtiment grâce à mon père. Ouais. Il était chef de chantier, ensuite il a monté sa petite entreprise et puis voilà, 25 ans de bâtiment.
Tu as fait tes études au lycée Leonardo da Vinci?
Leonardo da Vinci à Parigi.
Donc, en italien, en français?
En italien.
En italien, c'est ça.
L'équivalent de la troisième, le BEPC italien. Quoi.
Alors voilà. Pourquoi tu as été dans un lycée italien puisque t'es né à Paris?
Parce que les émigrés, la vie des émigrés, ouais. C'est toujours on va retourner en Italie, on va retourner en Italie. Donc voilà. Et d'accord. Puis ça s'est pas fait quoi. Donc,
c'est pas fait, ça
mes
fait,
parents sont restés. Donc moi ça fait 62 ans et mes parents ça fait un peu plus quoi.
Ils sont toujours là. Finalement.
Voilà, ils sont toujours là.
Alors donc comment ça s'est passé avec ton papa donc dans l'entreprise familiale comment ça s'est passé finalement que tu prennes cette voie de la maçonnerie?
Tout doucement. Vient me donner un coup de main et puis déjà petit j'allais sur les chantiers avec lui donc voilà et ça s'est fait automatiquement j'ai commencé un jour deux jours trois jours et puis je suis rentré dans le métier et j'ai appris sur le tas on va dire.
Oui, à l'époque c'était un peu comme ça en fait on n'apprenait pas tellement à l'école en fait on apprenait sur le chantier.
Ouais, il y avait beaucoup on rentrait oui à l'époque on rentrait sur le chantier, t'apprenais sur le chantier. Donc j'ai fait un parcours classique de un vrai immigré. Je suis arrivé, ouais. Je suis arrivé jeune, j'avais que les bras et puis voilà.
Oui, ce qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement, souvent, c'était soit un oncle, soit c'était le père carrément, ou un frère qui disait viens, on a de la place pour toi et puis on va t'apprendre le métier.
Le patron cherche un ouvrier, si tu veux venir, il y a de la place, il y a du travail. Donc voilà.
Alors, à quel endroit c'était ?
Au Péreux. Péreux-sur-Marne, à côté de Nogent-sur-Marne, qui est le fief, qui est le fief d'Hérital.
Le berceau d'Hérital.
Voilà. Les Malchiodi, les Taravella, les Cavana, on en a tellement que...
La Ritaline Gentese. Voilà. Ouais, Malchiodi, Taravella, Cavana, et c'est tous des familles, et c'est tous des entreprises aussi.
Ils étaient tous entrepreneurs.
Et t'as travaillé pour ces entreprises?
J'ai travaillé pour Cavana et
Taravella.
Taravella,
voilà. L'entreprise même où
qui était l'entreprise où travaillait le père de Cavana.
Voilà, Luigi Ligion Cavana.
Voilà. C'est fou. Mais bon, encore aujourd'hui, il y a encore quelques... les noms ont changé, c'est plus des noms nominatifs, mais c'est des sociétés. Mais il y a beaucoup d'Italiens encore qui sont entrepreneurs.
Ils sont derrière.
Voilà. Ouais. Je peux citer, il y a encore Lani, une entreprise de Champigny-sur-Marne, Jean-Pierre Lani. Il y a Giorgio Bracciale qui est ECMB, mais qui lui est à Clamart. Mais pareil, il y a encore beaucoup d'Italiens qui sont, ils sont entrepreneurs, ils sont plus sur le chantier, quoi.
Alors, parle-nous du métier un peu, parce que c'est intéressant. Bon, on a vu comment tu t'es intégré dans l'entreprise de ton père, mais le métier à l'époque, c'était dans les années 80.
Fin des années 70, début 80.
Ouais.
Voilà. Donc, ça a énormément changé, c'est ça que...
Et à l'époque, c'était un métier dur, hein.
Les conditions étaient plus dures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sécurité. On a allégé les sacs de ciment. Le truc, c'est voilà. À l'époque, le sac de ciment faisait 50 kilos. Aujourd'hui, il fait 25 kilos quand même. Les tenues sont plus légères, les chaussures de sécurité, les gants, l'électroportatif. On a quand même des conditions.
L'électroportatif, c'est quoi ça?
Tout ce qui est électroportatif, les marteaux piqueurs, les perceuses. Ah. Avant, il fallait se trimballer avec des rallonges. Ça pesait un poids énorme. Aujourd'hui, il y a des petites machines. Le métier est beaucoup plus léger, même s'il faut travailler dehors, même il y a toujours les conditions climatiques, même s'il y a toujours un peu de bruit et de poussière. Mais aujourd'hui, on fait des casques anti-bruit ultra légers. Les conditions ne sont plus les mêmes. Mais c'est surtout un métier qui fait peur aux jeunes, mais un métier qui pourrait être porteur et où il y a beaucoup, beaucoup de possibilités de progression, quoi.
À l'époque, l'entreprise de ton père faisait quel genre de travail de maçonnerie?
Plutôt de la rénovation. Tout ce qui était rénovation d'appartements, de pavillons, agrandissement, voilà.
D'accord, c'était pas encore la construction complète d'une maison.
Non, je faisais pas pavillon parce qu'on était une petite entreprise, mais on faisait des voilà.
D'accord, alors
mon père, lui, était chef de chantier quand il était chef de chantier à la SNET, justement. C'était une grosse entreprise de Nogent-sur-Marne, la SNET, et il était chef de chantier dans cette entreprise-là. Et là, il a fait des gros chantiers, il a fait des chantiers de 15 étages. Il a fait le centre culturel dans le 15e, inauguré par Chirac. Il a fait le Baltard à Nogent. Il était chef de chantier du Baltard à Nogent. Donc je me rappelle, moi j'étais petit, j'allais sur le chantier avec lui, donc voilà.
D'ailleurs, ce qu'il nous a dit, le directeur de cabinet du maire de Nogent quand il était venu, c'est que le pavillon Baltard a été installé à Nogent aux frais de l'État. Ouais. C'est-à-dire que c'était donné et monté. Ouais.
C'était à l'époque, Roland Nagesser, je crois.
Qui récupère beaucoup de choses. Il y a une partie du Pont des Arts qui est à Nogent, ouais. Il y a ce pavillon Baltard, une des halles de la halle du poulet
des halles de Paris,
voilà. Exactement, du ventre de Paris.
Voilà.
Alors, on va faire une pause musicale avec des chansons que tu as choisies, notamment Lucio Battisti, un'avventura. C'était une aventure à l'époque.
C'était une aventure, oui.
D'être maçon. Et
c'était surtout une aventure pour nos parents ou nos grands-parents de partir. Aujourd'hui, on a Internet, on a toutes les commodités pour s'informer. Mais à l'époque, quand on remonte 70, 80 ans derrière, dire je quitte la Sicile, je quitte l'Umbria, un petit village, mon père est dans un petit village perdu là-haut dans les montagnes, comment tu pouvais dire Vadovir, je pars, quoi. C'était quand même des courageux, quoi, à l'époque. Ouais. Et encore, bon, lui, il est venu en France, mais quand tu penses à tous les gens qui sont partis en Amérique du Sud, ceux qui partaient en Australie, quoi, ouais. C'était.
Surtout qu'en fait, à l'époque, comme tu dis, il n'y avait pas la télé.
Il n'y avait pas la télé.
Donc, tu n'avais pas d'information.
L'information que tu avais, c'était ton cousin. Un cousin, un parent qui t'écrivait une lettre qui disait si tu cherches du travail, viens en France, viens en Allemagne. Et tu partais, tu abandonnais tout. Quoi. Ce matin, j'écoutais une chanson, Que sarà, de Ricky Poveri.
Si.
Et ça exprime un peu.
Qu'est-ce que je ferai, etc.
Demain, je vais partir, je vais quitter ce village où je suis bien et je reviendrai, je sais pas quand.
Donc, c'était en 58, c'est ça que ton père a émigré?
Mon père, oui, okay. C'est un des derniers.
Donc, c'était quand même après le boom économique de l'Italie.
C'était le début. Lui, il est parti. C'est un des derniers qui est parti en 58, qui a émigré. Parce que voilà, le boom économique a commencé dans les années, fin des années 50 en Italie, quoi.
C'est ça. Ouais.
Voilà.
Mais ils ont quand même décidé d'émigrer.
Parce que bon, ça s'est pas fait en plusieurs, ça a été long, quoi. C'est les derniers émigrés italiens. Je pense que ça va être 58, 59. Je pense qu'à partir de 1960, il y a plus d'immigration.
Moins, ça sera plus tard. Ouais. Alors on va écouter tout de suite Lucio Battisti, Un avventura.
Sarà non sarà un'avventura. Questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia. Sempre tu, perché non è una promessa, ma è quel che sarà. Domani è sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. No, non sarà un'avventura.
Les mains ont la parole sur Aligre FM.
Alors, nous sommes avec Francesco Pompili. Et donc, on parle un petit peu des maçons au XXe siècle, hein, les fameux maçons italiens. Hein, ce terme apparaît régulièrement à partir du XXe siècle. La présence italienne dans les métiers du bâtiment doit être rapportée à ce qu'on observe dans d'autres secteurs professionnels. En 1913, par exemple, si 800 des 2000 maçons de Marseille sont italiens, les deux tiers des 1800 cordonniers de la ville sont originaires d'Italie. De façon comparable, dans l'entre-deux guerre, 18% des Italiens immatriculés au registre du commerce du département de la Seine sont maçons. À Nogent-sur-Marne en 1911, 70% des hommes italiens sont maçons. Par ailleurs, la maçonnerie est aussi une activité de repli pour les exilés politiques, tels l'avocat antifasciste, on se rappelle, Sandro Pertini, qui est devenu président de la République italienne, qui a été quelque temps maçon à son arrivée en France dans les années 20. La spécialisation dans les métiers du bâtiment est avant tout une réponse à la demande locale. Dans la périphérie marseillaise, au début des années 1870, la main-d'œuvre des carrières de pierre est majoritairement italienne. À la même époque, à Nogent-sur-Marne, dans un contexte d'urbanisation soutenue, on voit apparaître de nombreuses entreprises de maçonnerie dirigées par des entrepreneurs italiens. Ces petits patrons recrutent les ouvriers dans la région dont ils sont majoritairement originaires de la Val-Nour. Les grands chantiers urbains du XXe siècle sont propices à la formation de niches professionnelles. À Lyon, au milieu du XXe siècle, 20% des patriés sont originaires de la Valsesia dans le Piémont. Tandis qu'à Nice, tous les stuccatori recensés en 1896 sont italiens du Piémont. Le rôle des femmes est crucial. Les activités de complément qu'elles exercent comme logeuses ou cantinières assurent un fonds de roulement aux entreprises. L'entreprise Ponticelli Frères est fondée en 1921 par trois frères originaires de la Val-Nour, dont l'un, Lazare, dernier des poilous de la Grande Guerre, est devenu une figure mythique. Le succès des petites entreprises italiennes du bâtiment s'explique par leur capacité d'adaptation. Les petites entreprises du bâtiment se révèlent adaptées à la construction pavillonnaire des grandes villes à partir des années 20. La conjoncture est porteuse. Au milieu des années 50, 20% des entreprises du bâtiment de la région parisienne sont dirigées par des Italiens. Cet âge d'or qui contribue largement à la réactualisation du stéréotype du maçon italien prend fin dans les années 70 lorsque les entreprises artisanales cèdent le pas devant les grandes firmes du BTP. Hein, c'est un peu ça, hein.
Tout à fait.
Les grandes entreprises qui construisaient des... Ben voilà, surtout beaucoup peut-être des HLM, hein, tous ces groupes d'HLM qu'on voit dans les banlieues. C'était plutôt le bâtiment, qui le BTP qui prenait ça, les grosses entreprises.
Et c'est aujourd'hui, cette immigration, aujourd'hui, elle est appelée aussi par la restauration, l'hôtellerie-restauration, puisqu'on voit par exemple le groupe Big Mama à Paris, qui a pas mal de restaurants, je ne sais pas si vous connaissez, qui font... C'est des Français qui ont monté ça, mais il y a que des Italiens qui bossent là-dedans. Ils leur payent un logement pendant 5 mois. Ils viennent là et tout. C'est que des Italiens par Italiens.
Le service italien est quand même réputé, quoi. Je veux dire, j'ai travaillé dans quelques restaurants en tant que maçon. On a refait des restaurants. Et souvent, on nous parlait, voilà, le service italien, les serveurs italiens, l'école hôtelière italienne, c'était quand même un prestige. Quoi.
Voilà, l'école hôtelière, là, on peut parler de Massimo Mori, qui lui emploie, je crois, à peu près trois quarts de ses employés sont, c'est plus gastronomique comme comme restaurant, mais là, oui, il y a du service. Voilà. Trois quarts de ses employés sont italiens. Par contre, c'est vrai que l'immigration dans l'autre sens est toujours très très faible. Il y a peu d'entreprises italiennes qui viennent chercher des Français comme ça dans l'autre sens. Il n'y a jamais trop eu.
On revient à ton parcours. Oui. Comment t'es devenu professeur en patrimoine bâti?
Disons que malheureusement ou heureusement, j'ai eu un petit souci de santé. Il a fallu se reconvertir. Et donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Ouais. Je me suis retrouvé à l'éducation nationale, professeur de maçonnerie pour enseigner, essayer de transmettre à quelques jeunes un peu de savoir-faire que j'avais. Et par intérêt personnel et aussi par curiosité, on a ouvert une section patrimoine bâti, restauration du patrimoine bâti, qui concerne la taille de pierre, le travail avec de la chaux, la charpente, la couverture. Et ce qui, grâce à cette filière, ça m'a permis par exemple d'accéder au château de Versailles, où l'académie de Versailles a ouvert une section qui s'appelle le campus, un organisme qui s'appelle le campus, et qui regroupe tout le savoir-faire de l'académie de Versailles en travaux manuels, ce qui fait que quelquefois, je vais tailler un peu de pierre au château de Versailles. Je suis aussi, je fais partie aussi d'une association de bénévoles en restant, comme vous disiez, le château de Coucy, un énorme château qui était le plus grand château du Moyen-Âge, un énorme donjon qui a été fait sauter malheureusement par les Allemands en 17. Mais voilà quoi, on reste toujours dans le bâtiment.
Alors donc ce qui veut dire que toi, tu enseignes aussi bien la maçonnerie pour restauration ou construction, mais aussi donc une maçonnerie d'art. Ça dure combien de temps les études lycée ?
Nous, dans le lycée, il y a des CAP, il y a des bacs qui sont en 3 ans, et ensuite, on peut continuer après le bac. Et il y a l'université, il y a les DU, il y a des BTS. Après, ça, tout dépend. Il y en a beaucoup qui, par exemple, vont s'arrêter au CAP ou au bac pour travailler sur les chantiers. Pour rentrer dans des entreprises,
c'est le bac
pour restaurer.
IPB, c'est ça, c'est intervention IPB, patrimoine bâti.
Voilà.
Et les IPB. Autres aussi s'appellent comme ça, le CAP et
non,
les
CAP,
BTS.
C'est CAP maçon. Généralement, les CAP, ils continuent en bac. On fait un CAP et les meilleurs des CAP vont prendre la filière bac, quoi.
Et ensuite les DUT.
Après, il y a des DU, des diplômes universitaires en restauration. Il y a plein de filières, quoi. Il y a ceux qui restaurent en peinture. Voilà, ça se ramifie. C'est ouvert, quoi. Moi, je m'arrête plutôt à la partie technique. Je suis sur le chantier, quoi. Après, si vous voulez devenir restaurateur, c'est d'autres études. Quoi.
Et les compagnons, c'est encore autre chose.
Les compagnons, c'est encore une filière à part qui eux aussi commencent au niveau du CAP. Et voilà, c'est.
Et ils font le tour de France.
Et aujourd'hui, ça s'est perdu un peu, mais ça continue encore. Il y a encore des jeunes qui partent faire le tour de France, qui consiste à changer de ville en hiver, parce qu'en hiver, ils sont fixes, parce qu'ils font des études. C'est très dur, le compagnonnage. C'est pour ça qu'il y a une sélection Et c'est très dur parce que ben, ils travaillent le jour et le soir, il y a des cours du soir. Ah ouais. Et voilà quoi. Donc, c'est... Et donc, ils voyagent dans, en France. Mais il y a aussi les compagnons, entre guillemets, du tour du monde. Parce que vous pouvez aussi, en faisant partie des compagnons, aller travailler à l'étranger. Quoi. Mmh. Donc,
mais bon, c'est une belle formation quand même.
C'est, une c'est pour ça que les compagnons sont réputés. Parce que voilà, c'est une très bonne formation.
Et oui. Et si tu sors de là, si tu arrives à résister à tout
c'est
ça.
C'est sélectif, voilà. C'est
oui, très sélectif.
Comme dirait l'autre, c'est seuls les meilleurs restent. Quoi. Donc, ouais. Voilà.
Celles qui savent nager, voilà. Sur nage, quoi.
Alors, on va écouter un extrait que tu as trouvé, toi, dans le film à Marcor, hein, ouais. Sur les maçons, dis-nous.
Ben, c'est le film oui, de Fellini. Donc, à Marcor, c'est du romagnol, hein, ça veut dire je me rappelle. Et donc, c'est un film de 1973. Et donc, justement, il y a cette. On va l'écouter, on va essayer, je ne sais pas si on va bien entendre, mais sinon, on va vous redire
oui, monte un peu le son.
Un peu ce qui se passe. Mais c'est voilà, c'est un dialogue entre les maçons là, sur le chantier.
Vous savez que Cassinas a fait une autre poésie?
Quand est-ce qu'il écrit toutes ces poésies?
Cassinas, venez que! Fais sentir la poésie principale.
Sentiamola, va. Com'è che si chiama?
I mattoni.
Ah, bella.
Mio nonno fava i mattoni. Mio babbo fava i mattoni. Fatto i mattoni anche a me. Ma la casa mia dov'è?
Bravo.
Bravo, Cassino.
Giusto. Perché no? T'ho capito, Tessa? È vera. Ma anch'io ero un poveraccio, cosa credi? Però piano piano sono diventato capomastro. Non si può mica ottenere tutto pim pum pam. Ci vuole pazienza, carino. Bisogna lavorare. E lavorando uno lavora. Bisogna lavorare.
Non si è dietro a lavorare.
Ah, là aussi, c'est du beau travail de cinéma. Là, on ressent vraiment les accents. On ressent vraiment des accents dans cet extrait. C'est sur le maçon Calcinas où il lui dit « Fai sentir la tua poesia al principale ». Et donc il dit « mon grand-père était maçon, mon père était maçon et moi qui suis maçon, ma maison,
elle est où ?» Elle est où, c'est ça. Voilà, merci Fabrice pour ce petit extrait. Donc on revient donc avec tes élèves. Donc comment ça se passe avec tes élèves qui sont les élèves qui veulent devenir maçon? Parce que c'est vrai que c'est toujours été un métier un peu dénigré en disant que c'est dur, que voilà, il faut
c'est
être costaud,
pas un peu c'est pas un peu dénigré, c'est un métier qui est dénigré et malheureusement qui est dénigré. J'ai beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves qui viennent d'Afrique, qui viennent de l'étranger. C'est toujours réservé. Bon, ça a été réservé aux Italiens qui étaient immigrés, ça a été réservé ensuite à l'immigration portugaise et aujourd'hui on a une autre immigration encore. Et en règle générale, ce sont des élèves qui ont envie de travailler, qui ont envie de... Moi, j'ai une partie de mes élèves, surtout ceux qui viennent. C'est le cas de... C'est pour ça que souvent, je dis on a besoin d'avoir faim. Ce sont des élèves qui ont eu un parcours de vie un peu compliqué.
Un peu cabossé. Hein,
voilà, un peu cabossé. Et c'est des élèves qui ont envie de travailler, quoi. Donc,
il faut qu'on rappelle qu'il y a quand même pénurie. On l'a dit tout à l'heure, mais il y a pénurie de main d'œuvre dans ce secteur.
Ah bah voilà, c'est pour ça que je dis ça. C'est un métier qui. Le bâtiment, c'est vaste le bâtiment. Il n'y a pas que les parpaings, que le maçon. Dans le bâtiment, il y a de la construction, il y a du bois, il y a des électriciens. Mmh. On peut être maîtreur, on peut être responsable des achats, on peut être gestionnaire du personnel. Toujours en faisant partie de la grande famille du bâtiment. J'ai beaucoup de jeunes qui sont intéressés, quoi, qui découvrent le métier. La particularité aussi des lycées professionnels, c'est qu'il y a des stages, donc il y a un contact avec la réalité, ils partent en stage. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'alternance généralement 15 jours de travail, 15 jours à l'école.
Payés par l'État?
Non, ils sont payés par leur entreprise quand ils sont alternants.
Ouais, mais l'entreprise, elle est
oui,
payée par l'État.
Oui, après, il y a des arrangements, bien sûr.
ça marche bien, en tout cas, il y en a beaucoup.
Cette année, pour la première fois, les stagiaires, alors qu'ils n'étaient pas payés, vont toucher quelque chose.
Ouais.
On va leur donner pour 50 euros pour les secondes, 75 euros pour les premières et 100 euros par semaine pour les terminales. Mais c'est aussi une façon de les mettre en contact avec la réalité. Et là, il y en a beaucoup qui soit découvrent que le métier leur plaît pas du tout, donc bon, bah, c'est dommage. Il y en a d'autres qui découvrent le métier et qui disent, bon, finalement, les études, ça me plaît pas, et ils veulent travailler, et ils vont travailler. Et d'autres, ça leur sert aussi d'un détonateur pour continuer des études, quoi. Donc, ils font un CAP, éventuellement, ils font un bac, voire ils continuent après en BTS. Ouais, parce que quand aujourd'hui, j'ai des élèves qui ont fait des maîtrises, qui ont fait des licences, voilà.
Ouais, c'est ça. Quand on préparait l'émission, tu nous disais, j'ai des élèves, c'est vraiment des surdoués du truc. Faut t'en vois régulièrement.
C'est souvent ce que je dis à des jeunes élèves de collège, parce qu'il y a des collèges qui viennent nous voir de troisième ou de quatrième. Je leur dis, faut pas croire que le lycée professionnel, c'est une voie de garage. C'est tout simplement, des fois, la ligne droite, c'est le chemin le plus rapide, mais des fois, en faisant quelques zigzags, eh ben, on peut y arriver quand même, quoi. Et ça facilite. C'est pour ça que je dis souvent, on mûrit un peu plus, ça dure un peu plus longtemps, c'est un peu plus, le rythme scolaire est un peu plus calme, ce qui fait que ça donne des possibilités à beaucoup d'élèves de d'éclore, quoi. Voilà.
Alors, juste avant de faire une pause musicale, on parle juste, là je salue Antonio Imbriani qui nous a fait deux chapeaux avec des journaux, parce que ça c'était vraiment la symbolique des maçons en Italie. Raconte-nous un petit peu.
Bah, c'était les maçons, souvent là, il les a fait, moi j'aurais pas su les faire parce que voilà, c'est plus de ma génération, mais je me rappelle quand j'étais jeune, tous les maçons avaient ces chapeaux en papier qui étaient faits normalement avec les sacs vides de ciment, quoi. On secouait le sac de ciment, parce que généralement il y avait plusieurs épaisseurs dans le sac, donc on récupérait la partie qui n'était pas en contact avec la chaux ou avec le ciment, et ils se faisaient des chapeaux bien particuliers, quoi. Donc ça m'a fait plaisir ce matin de remettre ces chapeaux, parce que ça m'a rappelé quand j'étais petit.
Ouais, c'est vraiment, parce qu'ils sont bien faits, hein.
Voilà, lui il les faisait, il travaillait dans le sud de l'Italie, et c'était dans les années 50,
oui, bah, 50, voilà,
donc c'était. Alors, il râlait parce qu'il disait, normalement, c'était des journaux plus grands. Parce que c'est vrai que les journaux, avant, étaient plus grands. Maintenant, on les a diminués. Donc, on faisait des chapeaux un peu plus grands que ça. Donc, on a mis une photo sur Facebook. On fera des photos, voilà. Et il l'a refait.
Ils sont bien faits. Il y a les bords renforcés, fermés sur les côtés, avec un simple journal, quoi. Voilà, une simple page de journal.
Il nous expliquait que tous les matins, la première chose qu'il faisait, c'était de faire le chapeau. Parce qu'à l'époque, le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'argent.
Casquettes d'aujourd'hui, il n'y avait
les
pas cassettes, les BRL,
voilà, il n'y avait pas de casque, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Voilà.
Et voilà. Et d'ailleurs, en parlant de chaud, justement, il y a le bâtiment change. Alors, c'est vrai qu'il y a des imprimantes 3D qui construisent aujourd'hui des pavillons, des immeubles. On y arrivera sûrement, mais on aura toujours besoin de maçons, de manuels pour réparer, restaurer. Et alors qu'on a découvert le ciment il y a à peu près 150 ans, on a cru que c'était la panacée. Aujourd'hui, on revient en arrière et on redécouvre la chaux. Parce que la chaux, a d'autres propriétés, ça isole mieux, ça protège mieux. Voilà, on découvre avec toute la pollution, on découvre des nouveaux matériaux. Non, en fait, c'est des anciens matériaux qu'on n'utilisait plus et ça revient à la mode. Donc ça revient non seulement à la mode, mais c'est aussi parce que ça a une...
C'est plus écologique.
Voilà, c'est beaucoup plus écologique. Et voilà. Donc là aussi, il y a une ouverture pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent là-dedans, quoi, qui... tous ces métiers modernes, les constructions en bois, les constructions en chaux, le mélange en paille, terre et paille. Je veux dire, tout ça, ça fait partie du bâtiment, quoi.
Alors, on écoute une chanson qu'on a trouvée assez sympa, qui s'appelle « La chanson pour le maçon » et c'est chanté par Maurice Chevalier.
Il était une fois tout là-haut sur un toit, un maçon qui chantait sa romance. Ce fait n'allait de rien, vous allez voir combien un petit fait peut avoir d'importance. Comme il me reste à vous prouver comment, je vais commencer par le commencement. Un maçon chantait une chanson, là-haut sur le toit d'une maison. Et la voix de l'homme s'envola pour se poser par là comme un oiseau sur la voix d'un autre maçon qui reprit la chanson sur le toit voisin de la maison. Et ainsi commença l'unisson de deux maçons et d'une chanson. De maçon en maçon, de pignon en pignon et de rue en ville et en village, la chanson prit son vol et dans sa course folle accrocha tous les échafaudages. Le bon vieux curé se mit à danser parce que dans le pays tout entier mille maçons chantaient une chanson. tout là-haut sur le toit des maisons. Ça leur donnait du cœur au boulot. Les matériaux tout seuls semblaient monter tout seuls. Et les maisons poussaient comme des champignons. Ça faisait la joie des compagnons qui chantaient avec tous les maçons tout là-haut sur le toit des maisons. De chantier en chantier, tous les corps de métier travaillaient et chantaient en cadence. Le soleil dans le ciel trouva tout naturel à son tour de rentrer dans la danse. C'est alors qu'il m'est venu cette idée: vous n'en ferez que ce que vous voudrez. Si tout le monde chantait comme les maçons, si chacun apportait son moellon, nous rebâtirions notre maison qui deviendrait, bon Dieu, la maison du bon Dieu. Notre chanson serait la plus belle des chansons. Et quand viendrait la belle saison, nous serions des millions de maçons à chanter sous le toit de nos maisons. Nous serions des millions de maçons à chanter sous le toit de nos maisons, à chanter sous le toit de nos maisons.
Les mains ont la parole sur Aligre FM.
Nous sommes avec Francesco Pompili qui nous parle de la maçonnerie. C'est bien parce que, et du métier de maçon, parce qu'il y a des gens qui appellent et disent: oh là là, avec mon mari à 50 ans, il était maçon, et le dimanche, comme ça, on parlait beaucoup de toutes ces choses-là, forcément, des chantiers, évidemment, puisque c'était, on préparait le chantier qui allait venir, hein, de la semaine qui allait venir. Parlons un peu maintenant de ton engagement dans la restauration du château de Coucy d'Auffrique, parce que là, c'est vraiment de la restauration d'art.
Oui, c'est un, ça c'est en dehors du parcours scolaire, quoi. C'est un plaisir personnel. Je me suis engagé depuis quelques années dans cette association pour restaurer ce château et parfaire mes connaissances en taille de pierre, parce que c'est aussi une partie que j'ai voulu découvrir, la taille de pierre. Et ça me permet, grâce à ça, j'ai aussi, je l'apprends à mes élèves aussi. Ils font, bien que ça soit des maçons, je leur donne aussi une approche en taille de pierre. Et j'ai des élèves qui sont en université, en diplôme universitaire, donc une année après le bac, qui viennent aussi faire un parcours de connaissances sur la taille de pierre.
Est-ce qu'on doit automatiquement peut-être finir les études de maçon basique pour construire une maison et après se diriger vers ça, ou on peut aller directement?
Ah non, il y a des CAP de tailleur de pierre.
Directement.
Il y a un lycée à Paris dans le 19e et qui est taille de pierre. Mais des lycées... Il faut se renseigner, des lycées professionnels du bâtiment, il y en a plusieurs en région parisienne, dont le mien.
Le tien, voilà, on peut donner l'adresse, les gens sont intéressés. Voilà.
C'est donc au 128 avenue Jean Jaurès, à Montrouge, lycée Jean Monnet, voilà. Qui est aujourd'hui, le proviseur est un Italien aussi, un Sicilien, monsieur Salvatore Carubia, salue parce qu'il doit nous écouter. Et donc voilà, c'est un lycée du bâtiment qui regroupe aussi la plomberie et la couverture. Donc, voilà. Plus la gestion administration, qui est une branche aussi de notre lycée.
Et alors, est-ce qu'on réussira un jour à refaire une cathédrale comme Notre-Dame ou pas?
Alors, malheureusement, comme on dit...
Je ne parle pas de la cathédrale en elle-même, de faire des monuments comme ça aussi.
Il suffit de voir la Sagrada Familia, Gaudi, qui a lancé le truc.
Mais
quoi.
combien de temps ça a pris?
Une centaine d'années.
Ouais,
quoi.
Mais
malheureusement, quand la cathédrale a brûlé, il y a eu un effet aussi positif, dans le sens où il y a beaucoup de jeunes qui se sont lancés dans les métiers de restauration, taille de pierre, charpente, tout ce qui est restauration. Ça a aussi boosté
ça a relancé les filières.
L'intérêt pour ça.
Oui, il y a eu beaucoup de reportages à la télé, on a vu comment on coupait les bois,
il y a beaucoup d'associations. En France, il y a une association qui s'appelle Rempart, qui regroupe toutes ces associations de restauration, et j'invite les jeunes à se renseigner. Tu fais 15 jours, ça dure des stages de 15 jours, et où tu apprends, tu t'approches du métier, mais tous les métiers, quoi. Que ce soit taille de pierre, ça peut travailler le cuir, ça peut être des vitraux, ça peut être la chaux, ça peut être plein. Et c'est ce que je dis à mes élèves, c'est si tu n'as pas trop d'argent pour partir en vacances, eh ben, tu t'inscris à ces formations-là. Ça dure 15 jours. C'est que des jeunes qui viennent du monde entier, de toute la France, de tous les âges et du monde entier. Parce que moi, j'ai connu des Israéliens, j'ai connu des Canadiens, j'ai connu d'Argentine. Il y avait du Maroc. Il y a plein de jeunes et ça permet un échange aussi sur les différentes générations, les différentes sociétés. Et voilà, ça peut être intéressant pour des jeunes.
Alors, rapidement, quelles qualités il faut avoir pour devenir un bon maçon?
Du courage. Du courage, oui, mais comme dans tous les métiers, je pense qu'il n'y a pas ni. Faut être rigoureux, faut être sérieux, faut aimer le bon travail, mais je crois que c'est pour tous les métiers. Qu'on soit cuisinier, ou qu'on soit comptable, ou qu'on soit informaticien, c'est valable pour un jour. Sauf que dans le bâtiment, faut être peut-être un petit peu plus solide parce que,
ça se voit plus, quoi. Voilà. Quand on est dans les bureaux, on peut se cacher.
Non, mais c'est pas que c'est plutôt que, on travaille dehors quand même. C'est un travail, le bâtiment comme menuisier ou comme c'est des métiers où on se déplace, donc faut te lever de bonne heure. C'est pas, je travaille pas dans un bureau, dans une usine où c'est toujours à la même place tous les jours, toute l'année. Aujourd'hui tu peux travailler à 5 minutes de la maison et
faire du télétravail et faire des maisons au télétravail, voilà, ça marche pas encore.
Ou alors la semaine d'après t'as un chantier qui est à 20 ou 30 km quand tu dois traverser Paris ou aller travailler de l'autre côté de Paris, c'est un peu le parcours du combattant aujourd'hui. Voilà, et puis après, aujourd'hui, dans les petites entreprises, on peut dire que ça reste un peu dur parce qu'ils n'ont pas toutes les facilités. Mais si vous travaillez, par exemple, dans une grosse entreprise comme Bouygues, comme Dumaize, comme Vinci, là, vous avez des réfectoires, vous avez des sanitaires, vous avez des douches, vous avez tout un service
conditions de travail.
Le vendredi, vous laissez votre bleu. Le lundi matin, il est propre, lavé, repassé. Aujourd'hui, par exemple, les grosses entreprises, ça fait rigoler toujours mes élèves parce que le matin, je fais de l'échauffement. Je fais un quart d'heure d'échauffement. Quand vous travaillez dans une grosse entreprise chez Bouygues ou chez Vinci, en règle générale, tous les matins, tout le monde est obligé de faire un quart d'heure d'échauffement. Vous voyez, les conditions de travail ne sont pas les mêmes si c'est dans une grosse entreprise ou dans une petite entreprise. Mais voilà.
Pour terminer, l'avenir de la maçonnerie, tu le vois comment ?
Je pense que c'est un peu dur en ce moment, mais il y aura toujours besoin, quoi qu'il arrive, de maçons. Que ça soit en méthode moderne, comme je disais tout à l'heure, imprimante 3D, ça sera plus des maçons avec une truelle peut-être, mais il y aura toujours le maçon avec la truelle, il va encore durer quelque temps parce qu'il y a encore Notre-Dame, elle est encore debout, Château de Versailles est encore debout, et puis le Vatican,
il y a des murs à
restaurer. Voilà, il y en a des choses encore qui vont rester debout, quoi. Donc faut pas oublier que les Égyptiens, 4500 ans, ils ont fait les pyramides et ils utilisaient déjà la chaux, et encore avant les Sumériens. Donc les maçons existent depuis pratiquement que l'homme est né, quoi, parce qu'il a commencé à construire. Au départ, c'était des grottes, mais après, il a fallu construire quelque chose. Et déjà, il y avait des maçons à l'époque. Voilà. Je ne sais pas s'ils étaient italiens, par contre.
Oh, sûrement. Merci, Francesco Pompi.
De rien, pour ça m'a fait plaisir.
Ces explications, nous aussi, on est revenu un peu en arrière, puisqu'on a tous dans nos familles quelqu'un qui est maçon, un frère, un oncle ou un père. Merci à toi. On va faire une dernière pause musicale.
Oui, juste avant.
Et puis, comme ça.
C'est
après...
pour quand la retraite, Francesco?
Ah, le pauvre.
Ça arrive tout doucement.
Voilà. D'accord.
Ce qui est dommage, tu as raison de parler de ça. Après, c'est un autre discours. Est-ce que ces métiers-là ne devraient pas partir plutôt en retraite? C'est évident que oui. Tous ces métiers du bâtiment qui sont très durs, c'est évident. Peut-être ça attirerait plus de jeunes si on disait, on part à 60 au lieu de 64.
C'est un vaste sujet.
Un vaste sujet. Mais là-haut, ils n'ont jamais pris une truelle et puis ou maton et ils ne savent pas ce que c'est.
Je salue tous mes amis. Et en particulier, il y a quelques personnes quand même, Monsieur Franco Avali qui m'a fait travailler pendant une trentaine d'années. Et pour les anciens du Juventus Club Paris, je salue la mémoire de Monsieur Renato Ieffi qui nous a quittés il y a quelques temps. Voilà. Et de bons souvenirs que j'ai eus.
Merci, tu reviens quand tu veux pour nous parler de ça et d'autres choses. Et là, on termine avec une chanson que tu as choisie encore. C'est Adriano Celentano, Il ragazzo della via Gluck.
questa è la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città. Gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico disse: qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Wow, wow. Passano gli anni.
Le plus dur, hein, c'est vrai, c'est de faire silence ici parce que les Italiens, hors antenne, blip, 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 et alors quand le rouge arrive, blablabla, blablabla, ça continue. Allez, Fabrice,
eh ben, on va continuer justement dans le blabla. J'ai quelques petites infos. Une expo, c'est le pastelliste vincennois David Bartolini qu'on avait reçu le 18 juin dernier à Cappuccino avec Francis Baffet, l'aquarelliste. Il sera du 18 novembre au 3 décembre à Gournay-sur-Marne, à l'espace culturel Alain Vanzo. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, vous pouvez y aller. Deux livres pour les fêtes, là, c'est bien. C'est le cadeau roi encore cette année, hein, le livre. Hein. L'Atlas des vins insolites de Pierrick Bourgault. Ça s'est paru le 19 octobre. Il est paru aussi en édition italienne, Atlante dei vini insoliti. Donc il a réédité un peu son ouvrage avec, voilà, il a refait une grosse moitié. Et une grosse moitié de l'ouvrage aussi, c'est des vins italiens. Il y a par exemple les vins de Pompéi, avec des vignes très serrées qui font de l'ombre pour les mauvaises herbes, les vins de la lagune de Venise, le vin de la paix avec 600 cépages, enfin plein de choses dans les vins italiens. Il y a le vin le plus fort du monde dans les Pouilles. Tu le connais, hein, Michel? C'est à Acquaviva delle Fonti, 19,5.
Acquaviva.
19,5 d'alcool.
On connaissait une copine qui s'appelle Loredana Acquaviva.
Eh oui, Loredana,
c'est un nom qui est très connu d'ailleurs. Par là, ouais.
Et alors chez toi, le Fuori Marmo, c'est une cuvée de Toscane élevée dans des jarres en marbre blanc. Voilà, l'Atlas des vins insolites de Pierrick Bourgault en livre. Un deuxième livre, c'est la BD. Alors, est-ce que vous connaissez Maria Anna Cecilia Sofia Calogeropoulos?
Non, oh bah non.
Mais si, vous la connaissez tous. C'est la Calas. La Calas.
Ah oui, il y avait un peu de grec là-dedans.
Eh oui, Calogeropoulos. Ouais. La Calas, c'est une BD avec Pasolini, sous-titrée Un amour impossible de Jean Dufaux et illustration de Sara Briotti. C'est une super belle, c'est vraiment un coup de cœur, super belle BD. C'est dans l'époque pré-Dolce Vita à Rome, via Veneto. Le destin, alors elle a un destin amoureux un peu à la Dalida. La Calas avait beaucoup de déceptions amoureuses, de désillusions. Et là, elle va trouver Pasolini, vraiment son alter ego. Ils vont tourner Médée ensemble. Et vraiment, un très très fort, voilà, comment
amour.
Spirituel, ouais, c'est une rencontre spirituelle très très forte. Mais bon, patatras, lui, il est pas trop physiquement, il est pas trop dans ce truc-là. Mais ils ont vécu vraiment une histoire très forte. C'est la BD. Sinon, il y a eu la semaine dernière pour la cuisine. Je sais que Francesco Pompili, c'est un fin cuisinier, on m'a dit.
Aussi. J'essaye.
Et ben alors, qu'est-ce que tu penses du? C'était le premier championnat de pan dolce basso à Gênes dimanche dernier.
Ah bah, bienvenue.
Le pan dolce, le pan 12, c'est une espèce de panettone génois très très bas avec des fruits confits. Et puis on salue aussi Giancarlo Pedot qui est sur la Transat Jacques Vabre qui va arriver certainement demain. Il est dans les 10e place, donc il a une bonne place. Voilà, j'étais au Havre il y a 15 jours voir le départ, mais malheureusement la tempête a remonté tout ça et je l'ai pas pu le voir. Mais j'ai vu par contre un technicien de l'équipe de Samantha Davis là, qui est 4e, qui a construit, il m'a dit qu'il a construit le bateau de Giancarlo Pedot à Lorient dans le Morbihan. Voilà. Forza Giancarlo.
Si, Fiorentini.
Bomba.
Oui, les Fiorentini. Merci à toi. Merci à toi, Fabrice.
À bientôt.
Merci
à bientôt.
À Francesco Pompili.
Arrivederci.
Là. On n'a pas le petit jingle. Oh, sinon, c'est pas grave, tu le mets après. Hein. Oh, Firenze.
Et c'est parti, Michel.
Attention. Il met du temps à démarrer, mais quand même.
C'est
un diesel. Hein, c'est un diesel, c'est un peu comme nous. Le matin, 8h, là, j'ai entendu chanson Made in Italy.
Très sympa cette chanson.
Mon père l'écoutait, celle-là. C'était génial.
Je sais pas, parce qu'elle n'est pas si vieille. Hein.
Oh, c'est quelle année, ça?
Non, c'est pas si vieille.
Alors, c'est la deuxième que tu as passée.
Ah, Miniera, peut-être.
Miniera, oui.
Il a chanté. C'est 1927.
Ah ben voilà, tu vois, c'est tout à fait ça. Lui, il est venu en 30 ici, donc justement.
Donc là, c'était le souvenir vraiment, en 1927.
Angelo, on le salue, Angelo. Ouais. Voilà. Écoute, c'est fini.
C'est fini pour aujourd'hui.
Oh oui.
Pour aujourd'hui.
Merci à nos invités, ils étaient sympas à la Pompili.
Ah, très sympa, oui.
Et Fabrice Massera.
Et
Juliette aussi. Et puis Enrico, est-ce qu'on salue?
Bah, bien sûr.
La casquette moderne et tout. Oui. Et dis donc, dimanche prochain, à quelle heure tu reviens?
Mais à partir de 8h peut-être.
Ah, 8h.
Sûr, à partir de 8h.
Mais dis donc, t'es courageux quand même.
Tant que ça dure, Michel. On tient bon après.
2023.
Ce qui arrive, arrive.
Là, après 2024, qui viendra. Bachi, bachi, nous dit.
Ciao à tutti.
Ciao à tutti.